Seigneur, nous te remercions pour les Écritures et la parole prêchée ce matin. Nous te remercions pour le travail, les heures passées, le courage d'Yvon et l'œuvre de ton esprit en lui et dans sa famille. Donne-nous des cœurs ouverts à ta parole, telle une terre qui accueille la semence et l'eau, que ta parole soit féconde. Que ton esprit qui donne la vie, lui donne à cette parole de croître, de porter du fruit, et qu'ainsi d'autres puissent bénéficier de cette nourriture autour de nous et au-delà de ces murs. Amen.
Alors, bonjour à tous. Je dois dire que c'est un vrai plaisir et aussi un honneur d'être là devant vous ce matin pour cette prédication. Alors, aujourd'hui, on continue notre série dans le livre des Actes. Et aujourd'hui, on va étudier le livre et le chapitre dans Actes 8. Alors, avant qu'on lise le texte, peut-être pour replacer un petit peu le contexte de ce passage... Nicolas, notre pasteur, vous avez parlé de cette image qui me semblait définir un peu comment fonctionne le livre des Actes, celui des cercles concentriques. Vous savez, quand on jette une pierre dans l'eau, puis qu'elle tombe, et puis après, vous avez ces cercles comme ça qui grandissent. Eh bien, jusqu'ici, si on veut, du chapitre 1 à 7, on était dans ce premier stade où à la Pentecôte, il y a cette pierre qui tombe dans l'eau, et puis vous avez ce premier cercle où il se passe plein de choses. Mais finalement, c'est tout un peu à Jérusalem que la communauté grandit. Et puis là, aujourd'hui, acte 8, après la mort d'Étienne, qu'on a vu il y a 2 semaines, il y a un passage à un cercle plus grand où d'un coup, Jérusalem va se vider et l'évangile va être annoncé plus loin. Alors, je lis juste le verset 1 et 4. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et verset 4, « Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Alors vous voyez, d'un coup vous avez à Jérusalem et d'un coup ça se vide. D'un coup, il y a cette persécution et Jérusalem se vide complètement et il reste juste les apôtres. Et du coup, voilà, on passe à ce deuxième cercle. Et puis, avant qu'on continue dans le texte, je voulais aussi noter que dans le livre des Actes, dans cette expansion de l'Évangile, il y a un peu toujours deux moteurs qui fonctionnent en même temps. Ils paraissent un peu opposés, mais en fait, ils fonctionnent pareil. C'est-à-dire que tantôt, c'est l'Esprit qui pousse les chrétiens à se mettre en mouvement, à agir. Et puis, tantôt, c'est la persécution ou les oppositions. Et vous verrez que, dans ce passage notamment, il y a toujours les deux qui agissent comme ça, mais finalement, c'est toujours pour le même objectif, c'est-à-dire que l'Évangile soit répandu. Alors maintenant, je vais vous lire le texte sur lequel je voudrais m'arrêter en premier. C'est donc, je reprends au verset 5. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exercer la magie, provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement tous les grands signes et miracles qui se produisaient. Alors peut-être un petit mot sur Philippe quand même. On sait peu de choses sur lui, mais déjà la première chose, c'est que c'est Philippe le diacre et pas Philippe l'apôtre. Okay ? C'est de lui dont il est question dans Acte 6, où il nous est dit que quand les apôtres décident d'engager, entre guillemets, des diacres, il nous est dit que Philippe a été choisi parce qu'on rendait bon témoignage de lui et qu'il était rempli de l'esprit et de sagesse. Alors ça vous montre tout de suite un peu qui c'était, mais il faut quand même se rappeler que sa fonction de diacre faisait qu'en fait, il était au service des autres. Son travail de tous les jours, c'était distribuer de la nourriture, c'était un peu faire toute la logistique de l'église primitive. Hein ? Si je traduis en termes villards, pour juste vous voyez qui c'est Philippe, vous pouvez penser à Alain Vanet ou Marlène Pache, vous voyez ? Ces gens un peu qui sont dans le pratique, mais sans qui rien ne se fait. Alors ça, c'est ce qu'on sait sur Philippe. Alors ce texte, moi je le trouve hyper intéressant parce que on y voit un peu comme un cas pratique, un cours sur l'enseignement des foules. Et puis, vous avez l'opposition de deux styles dans l'enseignement des foules. Et puis, vous voyez que dans ce texte, il est dit que la raison principale pour laquelle les foules s'attachaient à l'enseignement de Philippe, c'était à cause des miracles. Il s'est passé beaucoup de choses extraordinaires, et le texte dit que c'est notamment pour ça que les gens étaient vraiment étonnés et suivaient Philippe. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'était aussi pour les mêmes raisons qu'il est dit que ces gens suivaient Simon le magicien. Donc cet homme aussi faisait des miracles depuis longtemps, et la foule le reconnaissait comme quelqu'un de grand, et même on disait qu'il avait la puissance de Dieu en lui, celle qu'on appelle la grande. Alors vous allez me dire, quelle est la différence finalement entre les deux ? Elle est subtile, mais elle est fondamentale. Je vous lis au verset 9, « Simon se disait quelqu'un de grand. » Et verset 12, « Philippe annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. » La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui fait des miracles pour son propre intérêt, pour se grandir, et l'autre fait des miracles pour le royaume de Dieu. Et finalement, la différence, elle réside dans la personne que Philippe annonce. Et Philippe, il annonce qui ? Il annonce Jésus crucifié, mort sur une croix pour nos péchés. Et c'est ça qui change tout. Et je pense que pour nous, c'est aussi vraiment quelque chose d'important à se rappeler. De nos jours, on est souvent attaché, en tant que chrétien et dans les églises, à la forme. On aime bien que les choses soient bien faites, on aime bien que... Voilà, et c'est important. Mais ce texte, pour moi, nous rappelle que peu importe la forme, peu importe à quel point les choses sont bien organisées, peu importe la pureté du silence pendant le culte, peu importe la justesse de la musique pendant la louange, c'est pas ça qui va faire que les gens vont venir à Christ. Ce qui est important, c'est le cœur. Ce qui est important, c'est ce que nous annonçons. Et ce qui est important, c'est qui nous annonçons. Et c'est Jésus-Christ, crucifié et mort pour nous. Ne réduisons pas la puissance du message, ne réduisons pas la puissance de Dieu en pensant qu'elle peut être limitée par la forme. Dieu attend une seule chose de nous, c'est que nous annoncions son message d'un cœur sincère, et lui fera le reste. Alors, je poursuis plus loin dans le texte. Alors, on va pas le lire, mais Philippe, il a fait un travail d'évangélisation incroyable. Il a fait une campagne, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de conversions, et ça se passe tellement bien qu'à Jérusalem, les apôtres en entendent parler. Et ils décident d'envoyer Pierre et Jean pour voir ce qui se passe. Alors jusqu'ici, tout va bien. Pierre et Jean arrivent et voient qu'il y a des vraies conversions, des vrais baptêmes, et imposent les mains aux nouveaux convertis qui reçoivent l'Esprit-Saint. Là, c'est génial. Sauf que d'un coup, ça se gâte parce que Simon, le magicien, il voit ça. Et puis lui, il a un peu quand même cette sensibilité pour les choses extraordinaires. Et du coup, il demande aux apôtres, hey, c'est super, si vous voulez, moi j'achète ce don, et puis je fais la même chose, et puis comme ça, ben, on est plus pour imposer les mains, et puis comme ça, moi aussi, je peux donner l'esprit aux gens. Et puis là, ben, ça donne lieu à ce que moi j'ai appelé une des plus grosses remontées de bretelles de l'histoire primitive. Je vous la lis quand même, parce que ça peut toujours servir. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Ouais, c'est un peu calmé là. La conversion, c'est un moment fondateur dans la vie. C'est pour ça qu'on dit que c'est une nouvelle naissance. Et le jour où on s'est converti, on est tous redevenus un peu des enfants. On a dû apprendre, on a dû réapprendre à vivre. On a dû changer toute notre manière de penser, on a dû recevoir comme une nouvelle éducation. Simon, c'est pas qu'il n'était pas vraiment converti, c'est pas que c'était pas authentique. La seule chose, c'est qu'il avait besoin de changer ses vieux systèmes de pensée. Et que là, il était encore dans ses vieux systèmes et que voilà, ça l'avait poussé à réagir de cette manière. Donner sa vie à Christ, c'est le début d'un long processus qui prend toute la vie et qui se fait chaque jour et qui consiste à soumettre tous les aspects de notre vie, de nos pensées, de la manière dont on agit à Dieu et à sa manière de penser. Et ce que nous montre ce texte, finalement, c'est que dans ce long processus qui prend toute la vie, on a besoin les uns des autres. Tout seul, c'est difficile. Et c'est un peu ce qu'il y a dans la vision d'ailleurs de notre Église, hein, qui dit qu'on veut grandir ensemble dans la connaissance de Christ pour ensuite rayonner à l'extérieur. Pour apprendre la soumission, ou plutôt pour enseigner la soumission, selon moi, il n'y a qu'une seule manière de le faire. C'est l'exemple. Jésus, quand il a voulu enseigner l'humilité et la soumission à ses disciples, il n'a pas utilisé une parabole. Il s'est mis à genoux et il leur a lavé les pieds. Et ce que je retiens de ça pour nous en tant qu'Église, c'est que nous avons besoin les uns des autres pour nous aider à grandir dans cette soumission. Mais du coup, nous avons besoin d'être des exemples les uns pour les autres. Pas des exemples de vertu, de sainteté, mais des exemples d'être des serviteurs soumis. Et vous savez, si vous vous dites qu'il y a des orgueils trop grands ou des choses dans votre vie qui sont trop grandes et que vous n'arriverez jamais à les soumettre à Dieu, j'aimerais juste vous laisser une note d'espoir. C'est que Simon, après sa remontée de bretelles monumentale, bah, il change d'attitude. Cet homme qui était si orgueilleux, si assoiffé de pouvoir, qui avait été un peu le roi en Samarie pendant tant d'années, à la fin il dit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » Cet homme, d'un coup, il se soumet aux apôtres et il dit « En fait, je ne suis même pas capable de prier pour moi-même, j'ai besoin de vous. » Alors que ce soit aussi un exemple pour nous dans la communauté. Je continue dans le texte. Je sais pas si j'ai mis. Non. Alors, je continue dans le texte. On passe à une autre histoire complètement différente. On est toujours avec Philippe. Alors Philippe, il revient de sa super campagne d'évangélisation. Je pense qu'il est rempli d'esprit, qu'il est à fond pour Dieu et qu'il est un peu en mode maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Et là, je lui dis « Philippe, c'est reparti. Lève-toi et va dans le désert. » Et là, bah Philippe, encore une fois, et moi, Philippe, il m'hallucine, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'il se lève et il y va. Il a vécu ce truc incroyable, il était avec plein de gens, il a vu des conversions, il s'est passé plein de choses. Et Dieu lui dit « Mais maintenant, j'ai envie que tu ailles au désert, là où il n'y a personne. » Et Philippe, il y va. C'est vrai que pour moi, ça va tout de suite un peu à l'encontre de nos stratégies humaines. Nous, quand on évangélise, on est un peu toujours en mode, on cherche là où il y a la population. Si on met un stand, on va dire, cette rue, elle est plus passante. On se dit, voilà, où est-ce qu'on va trouver les gens? Comment on pourrait faire pour qu'il y ait plein de monde et puis que notre évangélisation soit efficace? Mais là, Dieu, il lui dit, tu vas au désert, là où il n'y a personne. Ce passage, moi, il me parle parce que il me rappelle un peu une partie de l'histoire de ma vie. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour une organisation humanitaire chrétienne qui faisait de l'urgence humanitaire. Donc vraiment, vous savez, sauver des vies pendant des tremblements de terre, etc. Et puis, cette organisation, elle aidait sérieusement des millions de personnes. Et l'objectif, c'était de pouvoir en aider encore plus, toujours plus. Et puis, c'était une organisation très professionnelle, avec des bonnes stratégies d'action pour essayer d'augmenter les performances et de pouvoir toucher toujours plus de gens. Et moi, j'étais fier de faire partie de cette organisation, vraiment. Mais un jour, j'ai senti un peu un appel qui me disait « Yvan, je pense que tu dois aller vers quelque chose de plus petit. T'as besoin d'autres choses. » Puis moi, je voyais que, à force, ces millions de visages, ces millions de gens qu'on aidait, en fait, moi, j'arrivais plus à me raccrocher, ça me parlait plus, je voyais pas les individus. Et du coup, j'avais envie d'aller pouvoir être plus proche des gens. C'est là que j'ai découvert la MEB, la Mission Évangélique Braille, et que du coup, je me suis engagé là-bas. C'est une mission qui a pour but d'aider les personnes aveugles et malvoyantes dans leur développement, et notamment spirituel. Puis quand j'ai commencé là-bas, ça ressemblait un peu au désert, parce que on était une centaine au siège de là où je travaillais, il y avait 1000 employés dans le monde, puis là on était 4. Mais surtout, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a dans le monde aujourd'hui, et là pour parler c'est la Suisse et la France, il y a des gens qui vivent dans des déserts aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tout seuls, qui n'ont personne à qui parler, et encore moins avec qui partager la parole de Dieu. Alors dans mon cas, c'est des personnes qui ont un handicap, mais je pense que c'est plus large que ça. Et au travers de ce travail, j'ai pu découvrir que aussi, aller rencontrer les gens dans les déserts, ça demande un effort supplémentaire. Parce que ça prend du temps. Vous vous déplacez pour une personne. J'ai aussi découvert que ça coûtait de l'argent. Et du coup, ça demandait plus de moyens pour une personne. Mais ce que j'ai découvert, et c'est la même chose que dans ce texte, avec la rencontre que Philippe va faire, c'est que dans les déserts, on fait aussi des rencontres incroyables. Mais surtout dans les déserts, Dieu aussi veut se révéler. Dieu est seul maître de l'heure et de l'endroit où il veut rencontrer les gens et se révéler à eux. Alors ne soyons pas des obstacles à ça. Osons aller aussi dans les déserts. Je continue dans le texte. Donc Philippe est allé au désert. Et là, il ne s'est pas retrouvé tout seul à rien faire. Il a fait une rencontre incroyable. Il est là sur la route et d'un coup, qui passe? Un eunuque éthiopien, mais pas n'importe qui. On nous dit que c'était quelqu'un de très important. Le surintendant de tous les trésors du royaume de la reine d'Éthiopie. Mais ce qui est juste incroyable, c'est que Philippe arrive, va voir cet homme puissant, et je pense que ça se voyait, parce qu'à mon avis, il avait du monde avec lui, et Philippe pouvait pas juste se dire, c'est n'importe qui. Philippe va voir cet homme, et tout de suite, il lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et cet eunuque, cet homme tellement important, tellement puissant, il lui dit, non, je comprends pas. Si on m'explique pas, comment est-ce que tu veux que je comprenne? Et moi, je trouve ça, je trouve ça incroyable, cette simplicité et le fait d'oser poser la question, oser simplement dire « je ne sais pas ». Moi, combien de fois je me suis retrouvé dans des réunions, même entre chrétiens, puis vous savez, ça part dans une discussion, et puis voilà, il y a des gens qui en savent toujours plus que nous, et puis qui s'échangent, et puis je suis là, et en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas de quoi ils parlent, mais j'ose pas. J'ose pas dire, si jamais, j'ai pas compris. Ça m'est même arrivé, je vais être honnête, ça m'est même arrivé pendant la préparation, la réunion qu'on a fait pour se préparer à la prédication. Deux personnes qui discutent, et c'était incroyable. Et j'étais là, c'est magnifique ce savoir qu'ils ont de la Bible. Mais en fait, je ne comprenais pas, parce que moi, je n'avais pas cette connaissance. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas osé demander et dire quelque chose. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été dans une église où quelqu'un lève la main pendant un sermon, puis dit « Ah, si jamais, je n'ai pas compris. » Alors, ce n'est pas un encouragement à le faire maintenant, hein, mais pour dire... J'ai la chance de faire partie des moniteurs du culte de l'enfance. Et vous savez ce qui est formidable avec les enfants ? C'est les questions. Parce que vous pouvez avoir fait toute la leçon que vous voulez préparer votre leçon. Vous êtes là, vous parlez de Dieu, voilà, et Jésus est venu sur terre. Puis il vous regarde, puis il dit, mais pourquoi est-ce que Jésus, il n'a qu'un fils ? Alors, dans ce cas-là, la réponse, elle est facile. Bah, tu demanderas à tes parents. Mais ce que je veux dire, c'est que la Bible et Jésus dans son enseignement, c'est pas pour rien qu'il disait que le royaume de Dieu est pour ceux qui viennent comme des petits enfants. Hein? Moi, des fois, je me demande quand est-ce qu'on a perdu notre âme d'enfant, hein? Cette capacité innocente de juste dire, oui, mais en fait, là, pourquoi si, pourquoi ça? Je crois que un des orgueils entre guillemets qui nous guette le plus en tant que chrétien parfois, c'est de penser qu'on en sait assez sur Dieu. Pas en mode « Oh, moi je connais tout sur Dieu ». Non, personne n'oserait dire ça. Mais vous savez, juste se dire « Ben voilà, moi j'ai, voilà, je pense que je connais. En gros, j'ai cerné le truc, le salut, tout ça, Jésus qui vient. » Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut se méfier. La Bible, c'est pas un livre de règles qu'on peut apprendre par cœur, et puis après on peut dire « Ben soit on connaît les règles, soit on les connaît pas ». La Bible, c'est la révélation d'une personne, Dieu lui-même. Et il n'existe pas de mesure de à quel point est-ce qu'on connaît une personne. En revanche, ce qu'on sait très bien, c'est comment grandir dans la connaissance d'une personne. Hein? Pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut lui parler, il faut passer du temps avec, il faut lui poser des questions. Peut-être même qu'il faut rencontrer sa famille, le voir avec sa famille, avec ses amis. Parce que vous savez, des fois, on est différent et on découvre d'autres aspects de sa personnalité. Dieu est infini et sa personnalité est infinie. Et il ne faut surtout pas penser que, voilà, peut-être parfois, parce qu'on reste toujours avec voilà, les mêmes personnes ou dans les mêmes milieux, penser un jour que, ah ouais, je pense qu'en fait, je vois à peu près où sont les limites de Dieu. Je pense que je peux le mettre à peu près dans cette boîte. Juste pour vous donner un exemple de à quel point... je trouve merveilleux comme Dieu est multiple. Ce week-end, je suis allé à la rencontre jeunesse à Bulle, la RJ. 2000 jeunes chrétiens en mode musique à fond, le spectacle. C'était juste incroyable de voir tous ces jeunes qui chantaient pour Dieu, qui se donnaient. C'était magnifique. Et j'ai vraiment passé des moments aussi dans la louange et tout ça qui étaient incroyables. Mais avant d'aller à la RJ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un crochet et je suis allé à Romont. Et à Romont, je suis allé dans une petite chapelle qui appartient à un monastère où j'étais allé il y a quelques années pour faire une retraite. Je suis arrivé, j'étais quand même un peu à la bourre, il était 5h15, je suis arrivé pile pour les vêpres, je me suis assis dans ce lieu où j'étais allé il y a 5 ans déjà, et c'était juste magnifique. On était 3 dans la salle, il y avait les 10 sœurs qui sont encore là, qui étaient en train de prier et de chanter, et c'était un moment magnifique. Mais ce qui était magnifique, c'est que dans cette chapelle et à la RJ, c'était le même Dieu. C'était le même Dieu. Et je l'ai senti personnellement, j'étais là, je sers, c'est le même Dieu qui est loué dans ces deux lieux. Mais c'était simplement deux aspects très différents de sa personne. Du coup, voilà, ne nous limitons pas, Dieu est riche dans ce qu'il a à offrir et dans sa personnalité. Alors osons aussi aller voir ce qui se fait ailleurs pour simplement grandir dans notre connaissance de Dieu. J'aimerais, pour finir, j'aimerais parler un peu quand même et m'arrêter sur le texte que lit l'eunuque et ce passage finalement par lequel Dieu décide de se révéler à cet homme. C'est un texte magnifique. Alors là, c'est juste un extrait du livre d'Ésaïe. Je vous le lis quand même. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est supprimée de la terre. Encore une fois, l'eunuque, c'était quelqu'un d'important. Il était au service d'une reine. Il devait voir des choses incroyables. Il devait être habitué au pouvoir. Dieu aurait pu utiliser un texte un peu plus costaud, un truc qui parle de sa souveraineté, de sa puissance, qu'il est le créateur de l'univers. Mais non. Il a choisi ce texte dans lequel Jésus est comparé à un agneau muet. Jésus, pendant son ministère, il n'a jamais cherché à en mettre plein la vue. Il a même refusé d'être couronné roi. La puissance de son ministère et de ce qu'il avait résidait dans une seule chose, c'était sa soumission totale à Dieu son Père. Et à la croix, il a tout accompli. Et Dieu n'a pas besoin qu'on embellisse son sacrifice. Il n'a pas besoin d'une version Hollywood, Jésus sauveur qui vient sauver le monde. Alors oui, du coup ça fait bizarre parce que oui, du coup notre histoire, la personne que nous annonçons, c'est un sauveur qui a perdu un procès alors qu'il était innocent. Un sauveur qui s'est fait humilier en public. Un sauveur qui est mort seul, crucifié sur une croix entre deux brigands. Oui, mais c'est ce Jésus-là que Philippe a annoncé à l'eunuque. Et c'est ce Jésus-là que nous aussi, nous annonçons. Nous sommes appelés à être des témoins fidèles de la version que nous avons reçue, qui nous a été transmise. Alors, si Christ lui-même a décidé de s'abaisser, si Christ a décidé de se mettre au plus bas possible, la situation la plus basse possible en tant qu'humain, pour que tout le monde soit sauvé, alors nous aussi, soyons humbles envers aussi ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, pour leur présenter tel qu'il est. Soyons attentifs de mettre de côté ces orgueils, sous quelque forme qu'ils soient, de peur de donner une fausse image de ce Jésus qui nous a sauvés. La vraie humilité, c'est de reconnaître tous les aspects de notre vie comme étant moins importants que la mission que Dieu nous a confiée. Le livre des Actes est rempli d'hommes et de femmes qui sont centrés sur l'essentiel. Le livre des Actes, c'est un appel à se centrer sur l'essentiel. Et l'essentiel pour tous ces hommes et toutes ces femmes dans les débuts de l'Église, c'était Christ et c'était la mission qu'il leur avait confiée. C'était ça l'essentiel. Il n'y avait que ça, c'était le plus important. Cette mission, la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas changé. Ça fait 2000 ans que c'est la même. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Je vous propose de prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu qui se révèle. Tu te révèles et tu t'es révélé à beaucoup de personnes ici et tu vas sûrement te révéler encore à d'autres. Et Seigneur, merci parce que tu te révèles dans une multitude de situations, dans une multitude d'endroits, sur toute la terre et depuis des générations. Seigneur, merci aussi parce que tu es un Dieu qui se révèle et qu'on peut apprendre à connaître. Seigneur, ma prière pour notre Église, c'est que nous restions comme des enfants, Seigneur. Je prie que nous restions humbles devant toi et que nous ayons toujours plus soif de toi, soif de te connaître, soif de grandir dans la connaissance infinie de qui tu es et de ton amour pour nous. Et Seigneur, ma prière aussi pour nous, ce matin, c'est que tu nous donnes envie d'aller plus loin, que tu nous donnes envie de semer, Seigneur, que tu nous donnes envie d'aller partager ce que nous avons reçu. Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice. Merci parce que tu t'es abaissé jusqu'à nous. Merci parce que tu as choisi la condition la plus basse possible, de manière à ce que tout le monde, que personne ne puisse être exclu. Merci Seigneur. Et que ton amour, Seigneur, et la soif de partager ton amour autour de nous brûlent sans cesse dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.